Bienvenue dans Rared Free Europe, le podcast qui analyse le rôle du Portugal et de la CIA lors de la guerre froide. Présenté par Antoine Thirion, il vous propose de plonger, en 5 épisodes, au cœur des années 50 et 60 pour tenter de comprendre le rôle joué par ces différents acteurs. Hypocrisie, ingérence politique et rôle des médias, rien n'y échappera. Épisode 1, CIA et ingérence politique, les États-Unis dans la guerre froide.
Another major part of our effort must be carried out through our great public information channels, newspapers and magazines, radio and motion pictures. We must make ourselves heard round the world in a great campaign of truth.
Le 20 avril 1950, le président américain Harry Truman lance la campagne de vérité et annonce la création d'une radio dont le but sera de soutenir l'anticommunisme au sein du rideau de fer. L'histoire de Radio Free Europe est lancée. Mais pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut revenir un peu en arrière. Au printemps 1947, les États-Unis inaugurent la doctrine Truman et le plan Marshall. La première vise à contenir l'avancée communiste en Europe, le second est un programme d'aide à la relance économique des pays européens. Bien que très distincts en façade, ils poursuivent en réalité le même but. L'avenir du vieux continent doit passer par l'Amérique. Le 17 juin 1947, le quotidien soviétique Pravda décrit le plan Marshall comme une extension du plan de Truman pour percer des pressions politiques à coups de dollars et un programme d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Le sous-directeur du plan lui-même, Richard Bissell, donnera par la suite raison aux doutes des soviétiques.
Il était parfaitement clair que le plan Marshall n'avait jamais été conçu pour être un projet entièrement altruiste. Il avait espéré que renforcer le pouvoir économique des pays européens occidentaux augmenterait leur valeur de membres de l'OTAN et leur permettrait éventuellement d'assumer une responsabilité de défense dans le soutien des efforts de la guerre froide.
Derrière son aspect généreux se cache un véritable cheval de Troie qui force les pays bénéficiaires à restituer 5% des prêts à des organisations américaines. Un filon qui sera particulièrement utilisé par une agence fraîchement créée. Le 18 septembre 1947, l'agence centrale de renseignement, plus connue sous l'acronyme CIA, est fondée en même temps que la loi de sécurité nationale. Elle est l'héritière de l'OSS, lancée au lendemain de Pearl Harbor, mais démantelée en septembre 1945 par le président Truman, qui, selon ses termes, ne veut rien avoir à faire avec une Gestapo en temps de paix. Nulle part dans le texte qu'il institue, la CIA n'est explicitement habilitée à espionner qui que ce soit, ni à intervenir secrètement dans les affaires des autres nations. Ces différents présidents profiteront pourtant d'un flou juridique pour organiser actions clandestines et collectes de renseignements. Pour l'heure, l'agence ne peut de toute façon pas interférer à l'étranger puisqu'elle n'opère que depuis son continent. Il va falloir arranger cela. Le 1er juin 1949, la CIA et le département d'État lancent le Comité national pour une Europe libre qui doit intégrer des exilés d'Europe de l'Est dans un vaste programme anticommuniste. Parmi ses premiers membres, on retrouve Dwight Eisenhower, futur président des États-Unis.
We have met at home and in distant lands. We have been together at times when war seemed endless. At times when peace seemed near. At times when peace seemed to have eluded us.
Présenté comme une initiative privée de citoyens américains soucieux de lutter contre le communisme, le comité sert de couverture financière à la CIA. Dans le cadre de la campagne de vérité dont nous avons parlé plus tôt, le comité lance une croisade pour la liberté à travers tout le pays. L'objectif est de financer ses activités par le don de citoyens généreux. Cette façade ne parviendra toutefois pas à masquer la réalité. Sur l'année 51-52, la population débourse 600 000 dollars, la CIA 28 millions. Maintenant qu'il y a l'argent, cap sur l'Europe pour y mener une bataille radiophonique inédite. Au milieu des années 40, les États-Unis avaient lancé RIAS, Radio in American Sector, une station de radio située à Berlin-Ouest qui diffusait en direction de l'Allemagne de l'Est. Mêlant informations et contenus légers comme la musique, le sport ou la météo pour attirer l'auditeur, le projet Radio Free Europe est calqué sur le même principe. À sa création, il est défini comme une contre-offensive non militaire contre l'URSS, incluant une guerre psychologique pour attiser la révolte dans les pays satellites. Dès sa première année, RFE hérite d'un budget de 10 millions de dollars, transféré via le Comité national pour une Europe libre. le quartier général est installé à Munich, proche de la frontière avec le rideau de fer. Deux relais sont également directement construits en Allemagne, à Biblis et Holzkirche, ainsi qu'un puissant émetteur caché à Gloria de Ribatejo dans la campagne portugaise. En 2022, plus de 70 ans après sa mise en route, la station de Biblis est toujours en activité. Dès son lancement, Radio Free Europe se présente comme indépendante du gouvernement américain, alors qu'elle est en réalité financée par la CIA. Contrairement à Voice of America, qui représente la voix officielle du gouvernement, RFE est ce qu'on appelle une radio de substitution, c'est-à-dire qu'elle répond à une logique politique, remplacer les médias du pays vers lequel elle émet en se présentant comme la voix de la population et contester la légitimité du pouvoir en place. Imaginée en fonction de sa cible, elle ne propose que des programmes dans la langue du pays visé. Sa vocation principale est de soutenir les mouvements de résistance, elle tente ainsi d'exercer de l'extérieur une influence sur la vie politique intérieure du pays. Radio Free Europe émet pour la première fois le 4 juillet 1950, jour de la fête nationale américaine. L'émission est encore modeste, elle ne vise que la Tchécoslovaquie et ne dure que 20 minutes. En 3 ans, la station connaît pourtant un développement rapide, ses heures de diffusion ne font qu'augmenter et elle émet désormais dans la totalité des langues du bloc de l'Est. Surtout, elle jouit d'un argument imparable pour attirer son public, le rock et le jazz, interdits par le pouvoir communiste. Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Le succès des radios occidentales est immédiat, bien que leur écoute ne reste qu'une exception lors de leurs premières années. Face à des médias censurés par le régime, elles sont le gage d'une information différente. Elles sont d'ailleurs les premières à révéler à l'Est européen le soulèvement de Berlin de 1953, le rapport Khrouchtchev de 1956, l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, les grèves de Gdańsk en 1980 et l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. L'impact du rapport Khrouchtchev est d'ailleurs un bon indicatif de l'influence de ces radios au sein du rideau de fer. Présentée au 20e congrès du Parti communiste dans la nuit du 24 au 25 février 1956, le rapport Khrouchtchev est un véritable réquisitoire contre le système Staline. Malgré une séance à huis clos, le contenu fuite le 16 mars 1956 dans le New York Times. Début juin, Radio Free Europe le relaie au sein du bloc de l'Est. En tant que première remise en question de la figure Staline, il ouvre pour la première fois le monde communiste au débat et à la discussion. Une faille vient de s'ouvrir. La contestation interne, issue d'une fermentation sociale et intellectuelle, monte au sein du rideau de fer. En Hongrie, le pays assiste même à la formulation d'actions politiques.
Was that your feeling at that time? My feeling was that professors should have the right to express their considered opinions on any subject, whatever they were, sir. Communists and socialists should be allowed to teach in the schools. They should have the right to teach anything that came to their minds as being a proper thing to teach. I was suspended from classes on April 1st and I resigned from the university.
Cet extrait en anglais remonte à la période 1953-1954 aux États-Unis. Alors même que la CIA vise à lutter contre le communisme à l'étranger, la population américaine doit faire face à de rudes interrogatoires. C'est la terrible période dite de la commission McCarthy qui porte devant les tribunaux toute personne soupçonnée ou dénoncée dans le cadre de la tristement célèbre chasse aux sorcières du sénateur. Car si le McCarthyisme a pris le nom de son principal représentant, il s'agit en réalité d'une vaste tendance qui secoue l'Amérique depuis quelques années déjà. En avril 1949, le magazine Life consacre une double page à une cinquantaine de personnalités américaines. Mais les strass et paillettes sont absents. C'est une liste d'accusations de communistes supposés. On y retrouve Albert Einstein, Charlie Chaplin et Marlon Brando, entre autres. En 1943, le même magazine consacrait pourtant un numéro entier à l'URSS, un portrait de Staline en couverture et un éloge au peuple et à l'armée russe tout au long de ses pages. Si le sourire de l'oncle Ike représente souvent l'Amérique consumériste des années 50, le pays est en réalité rongé par la paranoïa. Exemple surréaliste, le manuel scolaire à la découverte de l'histoire américaine distille le conseil suivant aux enfants.
Le FBI invite les Américains à signaler directement à ses bureaux tout soupçon qu'ils peuvent concevoir sur une activité communiste de la part de leurs concitoyens. Lorsque les Américains se comportent ainsi, au lieu de bavarder et de rendre leurs soupçons publics, ils agissent en conformité avec les traditions américaines.
En réponse à cet ouvrage, un historien écrira plus tard «
porter au nu les jeunes délateurs était la marque des sociétés totalitaires. Mais il a fallu la guerre froide pour inclure la délation dans l'inventaire des traditions américaines.
Lancé dans une spirale toujours plus infernale, McCarthy s'attaque à l'ensemble de l'organigramme sociétal américain. Écrivains et artistes se voient persécutés. Pas autant qu'en URSS, mais on remarque des points de ressemblance. Entre 52 et 53, les livres américains envoyés à l'étranger pour représenter le pays chutent de 119 113 à 314. Et de nombreux livres retirés des bibliothèques étaient ceux que les nazis avaient brûlés 10 ans plus tôt. Ils sont condamnés une nouvelle fois. Un exemple édifiant de la folie qui s'empare de l'Amérique est l'ouvrage « La désobéissance civile » de Henry David Thoreau, interdit la même année par les États-Unis et la Chine maoïste. Le McCarthyisme fera finalement l'erreur de s'attaquer aux institutions gouvernementales et le sénateur sera évincé à la fin de l'année 54. Il mourra 3 ans plus tard, mais l'Amérique devra encore lutter des années pour exorciser ses démons réveillés. De l'autre côté de l'Atlantique, au moment même où McCarthy lançait sa croisade contre les communistes infiltrés aux États-Unis, les Américains inauguraient, en pleine campagne portugaise, un nouvel émetteur de Radio Free Europe. L'objectif ? Pénétrer la politique intérieure des pays communistes.